explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est un exploit inédit, une aventure à peine croyable qui s'est déroulée en novembre dernier sur le lac Titicaca à 3800 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. L'idée de ce défi, un peu fou, a germé dans la tête du nageur handisport Théo Curin lors du premier confinement. Et comme le jeune homme a de la suite dans les idées, le projet s'est concrétisé près d'un an et demi plus tard. Le 10 novembre dernier, l'athlète amputé des quatre membres et ses coéquipiers, la vice-championne olympique de natation Malia Metella et l'aventurier Mathieu Wiedewoot ont plongé dans l'immense lac Titicaca pour le traverser à la nage dans toute sa longueur. Le trio est parti des rives boliviennes du lac Sacré pour gagner celle du Pérou. Nos intrépides nageurs ont ainsi parcouru près de 108 km en un peu plus de 10 jours. Ils se sont relayés pour tracter leur radeau, affrontant le froid, le manque d'oxygène et les imprévus. Car des imprévus, il y en a eu et pas qu'un peu, lesquels ils vont nous le raconter. Cet après-midi, Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Wiedewoot nous emmènent bivouaquer dans la cordillère des Andes sur le plus haut lac navigable du monde, là où ils ont dû repousser leurs limites pour réaliser leurs rêves. Cette émission a été préparée par Claire Tesser, elle est réalisée par Stéphanie Texier, avec à la technique Kevin Pelot. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Le lac fait 180 km de long et 80 km de large. Tout ce côté que tu vois là, on est chez les Quechua. Et de l'autre côté, c'est la zone Aymara. Là-bas, on parle la langue Aymara.
Parce que la Bolivie est de l'autre côté du lac.
Exactement. Mes grands-parents me racontaient souvent une légende qui disait qu'il n'y avait pas d'eau ici. Et sur la colline là-bas, il y avait une grand-mère qui avait de l'eau dans ses jarres. Un jour, des marcheurs se sont approchés d'elle pour lui demander de l'eau. Parce qu'ils avaient très soif à force de marcher. Mais la grand-mère cacha son eau pour ne pas la partager. Mais un des marcheurs s'est approché, a dérobé une jarre et il l'a déversée. Et ça a créé le lac Titicaca.
Le lac Titicaca, traversé par la frontière entre la Bolivie et le Pérou, est au cœur de bien des légendes. Et nos trois invités, Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Wiedewoot, sont entrés à leur manière dans la légende de ce lac, en le traversant à la nage pour la première fois. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Théo Curin, c'est vous qui avez eu l'idée de traverser ce lac à la nage. Pourquoi avoir choisi cet endroit ?
Parce que c'est un endroit qui me faisait rêver. C'est un endroit dont j'avais entendu parler à l'école primaire. Je me souviens que j'avais un ami à moi qui avait fait un exposé sur ce lac. Ça nous avait tous fait rire,
ouais,
à travers son nom. Et j'avais envie de faire quelque chose d'inédit qui n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Alors prenons le temps de le décrire quand même, ce lac Titicaca. Mathieu Wiedewoot, plantez-nous le décor.
C'est un lac à 3800 mètres d'altitude. Qui fait 14 fois la taille du lac Léman.
Ouais.
C'est un lac immense sur lequel, quand on est dessus, on ne voit pas le bout. Et c'est très important parce que pour nous, ça a été un des challenges. C'est un lac aussi dont les côtes sont très arides, en fait. Une végétation très sèche. Et c'est aussi impressionnant de voir comme une mer perchée au milieu d'un grand désert.
Ouais, Malia Metella, c'est vrai. Hein, presque une mer dans un désert. C'est-à-dire que ce lac, il est tellement grand que vous avez dû affronter parfois des tempêtes et des vagues dans ce lac.
Ouais, c'est en fait le lac même, comme disait Mathieu, en fait c'est la taille de la Corse.
Ouais.
Et ce lac, qu'on nous avait pas dit, se comporte comme une mer en fait, ouais, à l'intérieur, et on pouvait avoir des surprises. Ouais. Et les garçons vont rigoler parce que je disais, tu décides pas quand tu avances, c'est le lac qui décide, donc ils rigolent. Ouais. Et on a bien compris, ouais, c'était vraiment la phrase qui correspondait à ce lac.
Ça, on va le découvrir. Hein. À peu près rien ne s'est passé comme prévu, mais c'est ce qui fait tout le sel de l'aventure, évidemment. Avant vous, personne n'en avait traversé ce lac à la nage. Théo Curin, cette idée, vous l'avez eue pendant le premier confinement. Vous veniez de renoncer au JO de Tokyo parce que les règles vous donnaient peu de chance, c'est-à-dire que vous, vous auriez concouru avec des nageurs pas amputés des quatre membres comme vous, avec plus de chances d'y arriver. Donc vous aviez laissé tomber ce défi-là, mais vous en vouliez un autre, encore plus beau, encore plus grand.
Exactement. Ouais, j'avais envie de garder aussi un contact avec l'élément qui où je me sens le mieux, l'eau, les milieux aquatiques. Et c'est vrai que c'était impensable pour moi de continuer à m'entraîner deux fois par jour, à faire des sacrifices tous les jours pour finir troisième ou même quatrième aux Jeux paralympiques. Et je me suis dit d'accord. Et bah je vais créer mon propre challenge où c'est moi qui définis les règles. Et on a inventé petit à petit le défi Titicaca.
Ouais. Alors vous êtes un homme de défis. Hein. Vous aimez relever des défis. En 2020, donc à 20 ans, vous êtes devenu le premier athlète amputé des deux bras et des deux jambes a terminé un half Ironman, c'est-à-dire 2 km de natation, 90 km de vélo, 20 km de course en fauteuil, tout ça en 6h50.
Oui.
Ouais. Mais pourquoi vous infligez tout ça, Théo ?
Là, c'est vrai que c'était aussi un moment assez dingue, assez exceptionnel. Je sortais du confinement, j'avais besoin de me changer les idées et de me prouver aussi à moi-même que j'étais aussi capable de relever des défis en dehors des bassins. Et honnêtement, je crois que j'ai encore des courbatures un an après de ce défi parce que voilà, j'ai fait du vélo alors que j'en avais jamais fait auparavant. J'avais fait seulement 2 sorties avec le vélo qu'on avait adapté.
Ouais, votre sport de prédilection, hein, ça reste la natation. À 16 ans, vous avez participé aux Jeux paralympiques de Rio, vous êtes arrivé quatrième aux 200 mètres nage libre. C'est assez incroyable ce parcours. Quand on y pense, à 6 ans, suite à une méningite, on doit vous amputer des quatre membres. Et 10 ans plus tard, à 16 ans, vous participez aux Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui vous a conduit à la natation de haut niveau? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans?
Surtout, ce qui est assez incroyable, surtout, c'est que avant les Jeux paralympiques de Rio, 10 ans avant, ma plus grande phobie, c'était l'eau.
Oui.
Je voulais pas aller à la piscine avec l'école, je voulais jamais aller à la plage avec mes parents, je voulais pas partir en vacances à cause de ça. Et j'ai rencontré peu de temps après ma sortie d'hôpital, Philippe Croison, le mec qui est amputé comme moi et qui a traversé la Manche à la nage, et ça m'a montré que malgré ce qui venait de m'arriver, je pouvais relever des défis. Mmh. Et je trouvais que d'aller au contre de ma phobie, c'était un joli message que j'allais envoyer à mes parents en leur prouvant que malgré la maladie, je me lançais des challenges.
Mais un sacré challenge. Comment ça s'est passé la première fois où vous vous êtes jeté à l'eau au sens propre du terme?
Les maîtres nageurs sont venus me chercher au fond de l'eau au bout de 2-3 minutes d'apnée. Non, je rigole. Non. Ça a été hyper progressif. Je me souviens que la première fois où je retourne à la piscine, je ne vais même pas dans l'eau. Je reste une heure assis sur mon fauteuil roulant. La semaine d'après, je descends dans la piscine et petit à petit, j'ai franchi les étapes. Mais il m'a fallu quand même plusieurs semaines avant de prendre réellement du plaisir à nager.
Ouais. Concrètement, comment vous nagez? Donc, je rappelle, vous avez les bras coupés juste après les coudes et puis au niveau des genoux. Avec ça, comment on nage et on avance vite?
Pareil, il a fallu beaucoup de temps à mon entraîneur pour trouver des astuces, des exercices pour pouvoir travailler. Et en fait, en tournant les bras un petit peu plus vite que la moyenne, j'arrive à avancer et à progresser aussi.
C'est surtout les épaules, les bras. Vous ne vous servez pas du tout du haut des cuisses pour avancer?
Non, j'ai essayé pendant longtemps d'essayer d'utiliser mes jambes. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça me ralentissait encore plus. Donc en fait, j'essaye de me gainer le plus possible avec mes abdos et mes petites fesses pour être en fait le plus hydrodynamique possible et tourner les bras le plus vite possible pour avancer.
Et ce défi de la traversée à la nage du lac Titicaca, vous vouliez le faire en équipe. C'était pas une aventure solitaire dès le début dans votre tête?
Non, je voulais absolument partager. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gens en général et je me voyais pas partir à l'étranger, réaliser mon premier défi tout seul. J'avais besoin aussi d'avoir des gens sur qui je pouvais m'épauler, avoir des conseils et partager aussi cette aventure. Et c'est pour ça que j'ai demandé à deux personnes de m'accompagner.
Ouais. Malia Metella, vous êtes l'une de ces deux personnes. Alors vous êtes vice-championne olympique, médaille d'argent du 50 mètres nage libre au JO d'Athènes en 2004. Comment avez-vous réagi quand on est venu vous proposer ce défi incroyable? Comme ça, en rigolant.
Oui, alors c'est Anne qui m'a appelée d'abord, c'est son agent. Elle me demande est-ce que je fais du sport. Je lui dis oui, pour ma santé. Et elle me dit est-ce que tu nages? J'ai dit non, la natation, ça...
Ça faisait 10 ans que vous ne nagiez plus du tout, même pour le plaisir.
Non.
En fait, la compétition, vous avez complètement écœuré des bassins.
Oui, quand je suis partie, j'étais burn-out de la natation. Je ne supportais plus l'odeur du chlore. Cheveux mouillés, maillot mouillé. Non, je ne supportais plus aller à la piscine.
Mais alors, pourquoi quand on vous propose de replonger, parce qu'il a fallu vous entraîner, la piscine, vous avez dû y retourner. Pourquoi là, vous vous êtes dit ça vaut le coup?
Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que j'ai dit oui tout de suite à Théo. Un, il y a eu la période Covid. Je travaille dans le milieu événementiel sportif et c'était une période très calme. Mmh. C'était à huis clos et tout. Donc, je me suis dit, ça va être calme. Donc, j'ai du temps. Aussi, Théo, son projet, c'était un projet assez complet. Il y avait l'autonomie, le côté écologie et c'était Théo qui le proposait. Ouais. Une personne en situation de handicap qui était prêt à faire un défi complètement fou, ouais, qui n'avait jamais été fait. Et là, j'ai dit, Théo, ça rejoint toutes mes valeurs, je te dis oui tout de suite. Ouais. Et en une heure et demie, je l'ai rappelé, je dis oui.
Ouais, vous avez accepté tout de suite. Vous aussi, Mathieu Wittwoot, vous n'avez pas hésité?
J'ai hésité.
Ouais, pour quelle raison?
Il a même dit non.
Il a même dit non.
Ah, les langues se délient.
Il a même dit non parce que donc je rencontre Théo et la manageuse du projet Anne autour d'un déjeuner. Et il me parle du défi Titicaca. Et il me dit, c'est quoi le premier souvenir? Parce que j'y étais déjà allé. Il me dit, c'est quoi le premier souvenir que t'as? Je dis, bah, je me souviens, je suis allé me baigner avec mon père et on a crié tellement elle était froide. On était frigorifiés. Mmh. Mais ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est de me dire comment je vais concilier mon métier. Donc, je suis associé dans une entreprise sur l'économie circulaire. Et une autre aventure que j'avais, qui était descendre la Seine à la nage, qu'on a fait en juin. Et ce troisième défi, je me dis, ça va être vraiment un travail d'équilibriste, de jongler entre tous ces projets. Et j'ai peur de pas réussir à tout mener de front.
Qu'est-ce qui vous a décidé, alors?
En fait, j'en ai parlé à mes boss dans mon entreprise. Et je leur ai dit, voilà, on m'a proposé ce défi, j'ai dit non. Ils m'ont dit, mais t'es complètement fou. Et du coup, il m'a dit, trouve l'équilibre. J'étais un petit peu intimidé aussi par deux parcours oui, aussi brillants, en fait.
Deux vice-champions de natation, bah, hein, quand même, auxquels vous vous associez. Denis. Alors, votre place avait un lieu d'être dans cette équipe, parce que vous, c'était la dimension écolo. Tous vos parcours, vous avez traversé à la nage le détroit de Gibraltar pour alerter contre la pollution plastique. Vous avez fait ce long périple en partant de Paris sur la Seine pour rejoindre ensuite Deauville, là aussi pour alerter sur la pollution au mégot de cigarettes. Donc là, vous vouliez aussi apporter cette dimension écolo au défi du lac Titicaca et on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission à cet aspect-là du défi. Une fois l'équipe constituée, il a fallu s'entraîner. Là, c'est plus d'un an d'entraînement. Vous êtes allé sur beaucoup de lacs, à Compiègne, à Tignes. Et puis, le dernier stage de préparation, c'était dans les Pyrénées, sur le lac de Matmal. Petit aperçu de l'ambiance à l'entraînement.
Putain, j'ai oublié qu'elle était froide l'eau. Ça va être notre quotidien pendant un minimum 10 jours. Ouais. Donc le froid, des vagues dans la gueule, du vent. Et en plus de ça, on aura un radeau de 500 kg à tracter, quoi. En fait, ça va être que du bonheur, quoi.
On est sur une embarcation minuscule. Ce qui me fait peur, c'est à la fois le côté physique, mais aussi l'entente sur l'embarcation.
Il y a des éléments de friction qu'il peut y avoir sur le bateau?
Pour les ronflements de Malia?
Oui, toujours. Et l'épée de Mathieu et de Théo aussi, faut pas oublier.
Ça, c'est presque des petits trucs par rapport à... Non, mais à la fatigue, l'accumulation, tout ce qui peut se passer, donc...
C'est une aventure de se dire, bon, il faut que ce trio fonctionne, quoi.
Ouais, ils vont y arriver, bien sûr. Ils se sont préparés comme s'ils préparaient des Jeux, en fait, les Jeux Olympiques. Tous les trois, ils représentent beaucoup de valeurs et beaucoup de messages, donc c'est important qu'ils y arrivent pour, justement, toutes les personnes qui en ont besoin.
Ils sont chauds, ces mecs.
Extrait d'un reportage de France TV Sport qui vous a suivi pendant donc votre entraînement, Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Wittwoot. En entendant ça, on a l'impression qu'on est à mi-chemin entre la colonie de vacances et le stage hyper intensif de préparation au JO. C'est à peu près ça, Théo?
C'est exactement ça et ça a été ça en fait pendant la totalité de la préparation et même pendant la traversée. En fait, on était ultra soudés. On a vécu des moments très forts.
Ça consistait en quoi? Il fallait s'habituer au froid déjà, Malia?
Ouais, exactement. En fait, on avait comparé. La première fois, on était rentré dans l'eau à Compiègne. On était resté 20 minutes. Les garçons ont eu très très froid. Ils ont mis du temps. Vous avez mis beaucoup de temps à vous réchauffer. Et un an après, on a fait la totalité de l'entraînement, une heure et demie. Ouais. On n'avait pas eu froid, on s'est réchauffé rapidement.
Enfin, sur le froid, Théo, je crois qu'à un moment, vous avez été au-delà de vos limites.
C'était à Compiègne.
Ouais, c'était à Compiègne. En fait, on nageait et j'avais très, très froid. Je tremblais, je grelottais, etc. Et à un moment donné, je tremble plus, je grelotte plus et je me sens super bien. Mais je me sens tellement bien que je me dis waouh, mais faut continuer à nager là. Je peux nager des heures comme ça. Je suis vraiment dans, j'ai des sensations de transe assez indescriptibles. Le coach le voit tout de suite et il m'arrête et il me pose une question très très belle. Je sais plus exactement, mais du style comment s'appelle ta mère. J'ai dû répondre 13 ans. Et là, il a dû se dire ok, là, il est temps de le sortir dans l'eau parce qu'il va pas faire long feu. Et puis je suis sorti dans l'eau. J'ai mis beaucoup de temps pour me réchauffer et c'était des signes d'hypothermie. Ouais.
Alors vous étiez ultra préparé hein, là après un an de stage intensif et pourtant le lac Titicaca vous a réservé quelques surprises et vous a mis à rude épreuve. Vous allez nous raconter comment s'est passée votre traversée de plus de 10 jours à la nage de ce lac sacré. Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Witwoud nous emmènent bivouaquer sur le plus haut lac navigable de la planète cet après-midi sur France Inter.
Tu penses que les femmes m'adorent? Tu penses que mon nez n'est pas trop grand? Tu penses que je suis intelligent? Tu penses que je pense? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme pas là. Oh. Tu penses que je suis pas trop petit? Tu penses que je peux être heureux? Tu penses que je vais mourir? Tu penses que je dis des conneries? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh, moi j'aime Dieu, mais je fais ce que je veux. J'adore Hollywood, j'aime l'été à Saint-Tropez. Oh. Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme, elle n'est pas là. Oh. Et moi je veux nager encore une fois avec toi.
Je veux nager, c'était Arnaud sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Théo Curin, le jeune nageur amputé des quatre membres, se rapproche de son pari un peu fou. Traverser le lac navigable le plus haut du monde. 122 km entre Copacabana en Bolivie et Puno au Pérou. Dans cette aventure, Malia Metella et Mathieu Witwoud, deux nageurs d'exception, l'accompagnent. Juste avant leur départ, le trio a eu le droit à une bénédiction chamanique et aux honneurs de centaines de Boliviens.
Tout le monde est en train de chialer, c'est n'importe quoi, mais d'un côté on n'a pas envie de laisser les gens qu'on aime, et d'un côté on a envie de vivre cette expédition et on a hâte de les retrouver déjà.
Nous étions le 10 novembre 2021 sur les rives boliviennes du lac Titicaca. Le jour du départ était enfin arrivé. Vous étiez dans quel état d'esprit ce jour-là? Excitation, inquiétude, Théo Curin?
C'est ça. C'était beaucoup d'excitation et pas mal d'inquiétude aussi, parce que ça faisait 15 mois qu'on se préparait pour ce moment-là. Ça faisait 15 mois que je mangeais, que je dormais, que je m'entraînais Titicaca. Et quand on est vraiment le jour J au départ, et bah, on se dit ça y est. Donc j'essayais de prendre tout ce que je pouvais prendre, les émotions, le regard des gens, etc. Et c'était fou.
Alors le dispositif, vous êtes partis les trois en tractant le radeau, hein, ça c'était un peu pour l'image du départ collectif, mais ce qui était prévu ensuite c'était de vous relayer pour tracter ce radeau.
Exactement, on avait donné un peu le programme, c'était de tracter chacun notre tour une heure, 3h le matin, 3h l'après-midi, ouais. On l'a pas fait du tout.
Ouais, ça c'était ce qui était prévu.
Exact.
Hein. Ça s'est pas du tout passé comme ça.
Non.
Mais dès le début, c'est-à-dire que dès le début, vous battez des records de lenteur. C'est vous au début, hein, je crois, Malia, 10 mètres en 3 minutes.
Ouais, ça c'était
record à battre. Hein.
Ouais, c'était le record à battre. Et en fait, Mathieu me fait stop, c'est plus la peine, stop, tu n'avances plus. Ah ouais, d'accord.
Et il faut quand même se dire, vous aviez prévu cette traversée qui devait faire entre 108, 120 kilomètres, vous ne saviez pas exactement, mais il y avait cette longue traversée et il y a des jours où vous n'avancez pas du tout.
Ça a Mathieu. Été effectivement une des grosses difficultés parce que dans les plans, on avait tout prévu en fonction du vent.
Ouais.
Donc on avait prévu d'avoir le vent de dos, trois quarts d'eau, sur l'ensemble des 10 jours. Or, ce qu'on a eu, c'était l'inverse.
Ouais.
Et entre les prévisions météo qu'on regardait tous les jours et la réalité de ce qu'on constatait sur le terrain avec l'anémomètre, il y avait une différence complète. Donc en fait, dès que le vent était au-dessus de 15 km/h, on ne pouvait plus nager.
Et dès la deuxième nuit, premier coup de semonce du lac.
C'est vraiment la merde là, il y a beaucoup de d'éclairs à l'horizon. On ne sait pas trop si l'embarcation peut tenir le coup.
Là, il pleut ! On est tous les trois en plein centre de la tente, serrés les uns contre les autres, et on attend que ça passe.
Sur toute la plateforme, il y a un tas de grêle.
Théo ? Honnêtement, mec, c'était le pire orage de ma vie.
Vous avez vécu comme ça plusieurs gros orages de grêle. On entend dans vos voix que vous n'êtes pas rassuré. Le premier... orage a eu lieu dès la deuxième nuit. Racontez comment ça s'est passé. Mathieu, vite fait.
En fait, dès le premier orage, on a passé une super journée. Il faut se dire que sur la fin de journée, on a atteint 17 km. Donc tous les trois, on est ravis. Le coucher de soleil est magnifique. On pose l'ancre près d'une petite crique paradisiaque avec des ruines sur le côté. On dîne un petit risotto, il me semble, un fondant au chocolat.
Ah oui, dis donc, on mange bien à bord de votre radeau.
On mange très, très bien.
C'était lyophilisé, c'est ça?
Oui, mais lyophilisé, mais en vrac, donc conditionné dans des sacs qu'on réutilise encore aujourd'hui. Mais pour revenir à cette petite nuit, on pose l'ancre et on essaye de s'endormir. Et il s'avère que avec Théo, on a du mal à s'endormir. Je pense que Malia rigole, mais parce qu'on l'entend ronfler. Ouais. Et on commence à siffler. Et on siffle, mais on rigole, on s'amuse un petit peu. Et puis on ouvre la tente. Et là, on a une vision d'horreur. On se rend compte qu'on est à 2 km. De là où on avait posé l'ancre.
Vous aviez dérivé de 2
km. On a dérivé de 2 km. Le vent, en fait, avait changé de sens.
Ouais.
Et du coup, l'ancre ne tenait plus.
Elle a tourné.
Et là, on se retrouve avec l'ancre au milieu du vide et une île au loin qu'on voit dans la pénombre de la nuit.
Ouais.
Donc là, branle-bas de combat, Théo au moteur, Malia se lève à l'ancre devant, moi je pilote un peu les opérations, on revient vers cette petite crique. Et là, l'orage commence à tomber. On l'entend gronder au début au loin, 10 secondes, 8 secondes, 5 secondes, 3 secondes. Et là, il est sur nous. On a vraiment l'orage qui est sur nous, mais c'est pas le petit orage de Nancy. Hein. C'est un orage comme on n'a jamais entendu. Quoi. Ouais.
Vous avez eu peur vraiment, Théo, à ce moment-là?
On est tous un peu effrayés. On a chacun notre devoir, notre mission sur le bateau à ce moment-là. Et dès qu'on a une question sur l'aventure, et sur la météo, sur ce qui se passe, on pose la question à Mathieu. Et là, je pose plein de questions à Mathieu,
ouais.
Mais il ne me répond pas.
Mais pourquoi? Vous étiez tétanisé? Vous étiez trop occupé?
Il ne me répond pas. Et c'est une des seules fois où je m'agace un peu sur le défi. Je lui dis, mais Mathieu, il faut que tu me répondes là, mec. Je te pose vraiment des questions. Et bon, à la fin, les questions, c'est est-ce que tu penses qu'on va crever? Tu vois, c'était vraiment grave. Et juste, petite anecdote encore sur ce moment-là. Bref, on revient sur l'île, on arrive à se poser pas très loin, etc. Toujours dans notre bateau, on fait très attention, on essaye de pas toucher les structures métalliques autour de nous. Donc on forme une petite boule humaine tous les trois au milieu du radeau. Et je suis tellement épuisé, tellement fatigué de cette journée que j'essaye de poser ma tête sur l'épaule de Mathieu pour trouver un peu de réconfort. Et c'est un peu le pilier, Mathieu, c'est celui qui a peur de rien. Et à ce moment-là, il y a un orage et il sursaute, il me fait peur. Il me fait super peur. Et du coup, j'ai la peur de ma vie. Voilà.
Mais il y avait un risque justement que vous preniez la foudre sur ce petit radeau.
C'est là,
on savait pas.
Où
vous ne répondiez plus aux questions.
Non, en fait, Théo me bombardait de questions et moi j'avais besoin de temps pour réfléchir en fait.
D'accord.
Et ces questions me paraissaient pas essentielles dans la situation, à part pour rassurer Théo qui était important. Mais du coup, j'avais bloqué aussi toutes ces parties-là en disant Théo, il faut qu'on revienne à la plage. Moi, je réfléchissais à essayer d'analyser tous les scénarios possibles en disant voilà, s'il se passe ça, comment est-ce qu'on réagit? Parce que l'orage, normalement, ils arrivent pas à cette saison. Et quand on a parlé aux ingénieurs, parce qu'on avait déjà eu ça à Matmal, ils nous ont dit on va mettre un petit fil de cuivre dans l'eau. Si vous avez de l'orage, normalement, vous n'allez pas mourir.
Ouais, par contre, tout est dans le normalement.
Par contre, virgule, vous allez être quand même sacrément secoué. Ouais. Et alors là, quand on t'a jamais vu des orages aussi forts, tu te dis, ça veut dire quoi, sacrément secoué, en fait? Est-ce qu'on peut définir sacrément secoué? Et en fait, moi, j'avais comme pensé, s'il se passe quelque chose à Théo ou Malia, c'est-à-dire qu'il faut sortir le défibrillateur, il faut l'avoir à disposition. Si c'est moi qui suis électrocuté, ça complique les choses.
Vous étiez vraiment en autonomie hein, sur ce radeau, vous ne pouviez compter que sur vous.
Exactement, il faut se dire que sur certaines parties, justement dans l'orage, les secours, ils auraient mis 4 heures à arriver.
Ouais.
Et vu les conditions, ils ne seraient jamais venus. Donc en fait, on est vraiment dans l'autonomie. Et moi, je ne suis pas médecin de formation. J'ai fait 3 jours à Chamonix de pratique, c'est de défibrillateur et tout ça. Mais
Vous le dites, ça paraît quand même un peu inquiétant. Vous étiez vraiment suffisamment préparée, Malia?
Oui, préparée, mais ce qui nous a réservé, on n'était pas préparée.
Ouais.
C'est vrai, comme disait Mathieu, quand on en a discuté avec les locaux, ils nous disaient « Non, mais ce n'est pas la pire période. C'est janvier, février, mars, la pire. » Donc on s'est dit « Ah oui, quand même !»
Ah ouais. Comme vous le dites, hein, les locaux savent que ce lac peut être dangereux. Ils savent aussi tout ce qu'ils doivent à ce lac Titicaca qui occupe une place à part dans leur cœur et dans leur culture.
Pour moi, c'est un lac sacré. C'est bien ce qu'on disait avant, non? Et je le trouve magnifique.
Nos esprits protecteurs vivent dans les montagnes qui l'entourent. Ces eaux nous donnent à manger.
Nous avons une relation très forte avec ce lac, avec la mer de l'eau et la terre-mère. Car on vit de la nature, on vit du lac, de l'eau, des roseaux, sur nos îles flottantes. C'est pour ça qu'on a un immense respect pour ce lac sur lequel nous vivons.
Vous aviez baptisé votre radeau le Pachamama, en référence à la Pachamama, cette terre-mère qui est si importante pour les Péruviens et les Boliviens. Vous avez croisé quand même, pendant votre parcours, sur votre route, des pêcheurs hein, ou même des gens qui ramassent les roseaux sur ce lac. Comment voyait-il votre aventure, Malia Metella? De quel œil voyait-il le fait que vous traversiez à la nage leur lac sacré?
Ils étaient fascinés par nous et par le radeau, le moteur. Ils étaient très intéressés par le moteur, à savoir combien vous le vendez.
Ah oui, ouais. C'était un petit moteur électrique. Le but, c'était pas de tricher, mais c'était de se remettre
au point GPS.
Voilà, au point GPS. Exactement. Après chaque étape.
Et ça faisait 2 ans qu'ils avaient vu personne à cause de la Covid. Donc de voir des étrangers là et me dire mais qu'est-ce que vous faites sur le lac et tout. Et ils nous disent, mais pourquoi vous le faites pas en bus, Copacabana, Puno? Mais pourquoi vous vous faites sur le lac? Et donc, ils étaient ravis de nous voir. Et à chaque fois, ils avaient un peu des signes pour nous dire qu'ils arrivaient vers nous. Ils sifflaient pour nous dire qu'ils passaient devant nous et qu'ils venaient s'amarrer à côté de nous pour nous parler. Donc, c'était des belles rencontres, en tout cas.
Notre traversée est loin d'être terminée. Nous allons voir que vous avez même failli tout abandonner à mi-parcours. Vous allez nous dire pourquoi, suite de notre bivouac à la nage sur le lac Titicaca, dans un instant sur France Inter.
cómo ir a verte. Hay un solo camino, es el amor, amor, amor.
C'était « Et c'est la mort » chanté par Cannibal.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Ça tombait par terre de beauté. Et là, on voit l'aigrette qui passe en volant devant nous, là, avec ses ailes blanches. C'est très majestueux. Et ce qui est impressionnant, c'est que là, on voit à perte de vue ce lac avec ses petits îlots où poussent les joncs. Et ça s'appelle comment les?
Les totoras.
Les totoras. Et derrière, la grande cordillère qui est couverte de neige avec ses pointes acérées là qui se mêlent dans les nuages.
Et au-dessus du lac, il y a un grand ciel bleu. Difficile de pas tomber amoureux de ce coin.
Et alors Xavier Lazaro, ce lac magnifique sur lequel vous travaillez depuis des années, il est aujourd'hui menacé.
Il est menacé, ça paraît incroyable, parce que un lac à 3008 entre deux cordillères, on peut dire, ben non, il peut rien lui arriver. Et en fait, si, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80-90, une ville s'est créée qui s'appelle l'Alto. C'était la banlieue de La Paz et qui a grandi démesurément et qui est maintenant plus grande que La Paz puisqu'elle fait plus d'un million d'habitants. Et les rivières qui descendent de la cordillère en traversant l'Alto récupèrent toutes les eaux usées domestiques mais aussi industrielles et agricoles dans le bas. Et malheureusement, il n'y a qu'une station d'épuration qui est au bord du collapse. Et donc les eaux arrivent pratiquement crues dans le lac et donc ça fait beaucoup de dégâts.
Une voix que nos trois invités connaissent, celle de Xavier Lazaros, coordinateur de l'Observatoire binational du lac Titicaca, au micro de Guy Vanctil. Ce lac que nos trois invités, Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Witwoud, ont traversé à la nage. Alors il est encore superbe, mais il souffre de pollution. D'ailleurs, vous avez offert, après la traversée, votre radeau à Xavier Lazaros pour qu'il puisse continuer ses études. Parce que le but de votre aventure, c'était aussi d'alerter le grand public et d'agir à votre échelle. Ça, c'était votre credo, Mathieu Witwoud.
Exactement, c'était un créneau partagé avec tous les trois. Un travail de 15 mois aussi, de préparation. Ce lac, on a eu la chance de le traverser. Il est magnifique, mais aussi très pollué et très fragile. Et du coup, l'idée, c'était de mettre en avant des solutions, à la fois sur le traitement des déchets, d'aider des municipalités locales, aussi comme la municipalité de Copacabana, pour mieux gérer ces déchets et mieux appréhender ça, et envoyer finalement un message d'espoir aux Péruviens et aux Boliviens en disant qu'il existe des solutions pour justement restaurer ce lac et aider à le régénérer.
Concrètement, aujourd'hui, l'eau du lac est tellement polluée qu'elle n'est pas buvable. Alors, vous l'avez bu pendant votre traversée, mais vous aviez des purificateurs d'eau à bord de votre petit radeau.
Exactement, on avait un filtre à eau. Mais ça prouve qu'elle est buvable. C'est un petit filtre à eau qui est pas plus grand qu'une tasse.
Ouais.
Et on a vécu 10 jours en buvant cette eau-là. Ouais. Le problème, c'est que presque 100% des villes autour puisent leur eau de ce lac pour la boire, qui n'ont pas forcément les mêmes filtres, et que plus elle est polluée, plus du coup les gens eux-mêmes sont perturbés par ces pollutions, pollution qui vient à la fois des déchets, des eaux grises des habitants, bien sûr, et aussi de certaines mines et piscicultures. Donc sur chacune de ces pistes-là, il existe des solutions. On pourrait penser par exemple au lac d'Annecy, qui était extrêmement pollué il y a une cinquantaine d'années, et qui aujourd'hui est une des eaux les plus pures d'Europe. C'est aussi montrer à travers des exemples comme ça qu'on n'est pas condamné à cette pollution.
Vous pensez que ça va davantage sensibiliser le grand public de l'avoir dit en faisant cette traversée à la nage du lac Titicaca. Il y avait aussi cette idée, Théo Curin, de marquer les esprits en racontant une histoire forte.
Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, quand on réalise un défi sportif, ça excite toujours les gens. D'autant plus que c'était une première. Ouais. Personne n'avait traversé le lac Titicaca dans sa longueur. Et ça a plu aux gens. En plus, ça avait une belle histoire. Un trio qui se connaissait pas de base. Une ancienne nageuse à la retraite. Un mec qui a pas de bras, pas de jambes. Il y avait que Mathieu qui tenait un peu le coup, en fait. Et du coup, voilà, ça a plu aux gens, je pense. Et ça les a touchés.
Ouais. Et l'histoire était forte, hein. Elle a failli être même trop forte. Alors pendant les 8 premiers jours, vous aviez envoyé quelques messages pour donner de vos nouvelles, mais vous étiez seul, coupé du monde sur votre radeau. Au 8e jour, quelques membres de l'équipe organisatrice et des journalistes de TF1 sont venus à votre rencontre sur le lac pour voir comment ça se passait. Et ils ne s'attendaient pas à vous trouver dans cet état.
Depuis une semaine, Théo Curin et ses deux équipiers sont coupés du monde en totale autonomie. Comment vivent-ils leur aventure au cœur du lac navigable le plus haut du monde ? Nous partons à leur rencontre.
Escortés par la marine péruvienne, il nous faudra plus de 3 heures de navigation pour traquer leur position GPS et les retrouver dans l'immensité du lac Titicaca.
Comment ça se passe, Théo ?
Des larmes comme seule réponse. Ce jour-là, le jeune nageur est épuisé, submergé par l'émotion. D'habitude si souriant, si courageux, il a réussi à faire oublier que son handicap s'ajoute à cette aventure extrême.
On m'a montré la tête, donc je sais qu'il va y arriver, mais je vois bien qu'il... Il souffre, c'est dur, mais il va aller au bout, comme il fait toujours dans tous ses défis.
La voix d'Anne Bayard, l'organisatrice en chef du défi, qui faisait partie de l'équipe venue à votre rencontre et qui vous accompagne. Elle est en régie de l'autre côté de la vitre. Ce jour-là, Théo Curin, vous étiez en larmes, hein, on l'a entendu, incapable de répondre. Vous étiez à bout de force, bout de nerfs. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Quelques heures avant que Anne et l'équipe de TF1 arrivent, je prends mon créneau de nage, donc normalement prêt à nager pour au moins une heure, et en fait au bout de 40 minutes je sors, je remonte sur le radeau parce que je suis à deux doigts de me noyer, non pas parce que je suis à bout physiquement mais parce que je suis à bout mentalement. Du coup je remonte et je dis à Amalia et à Mathieu, moi je ne pourrais pas aller à Puno, il faut qu'on trouve une ville plus proche, il faut qu'on trouve une solution, mais je pourrais pas aller au bout, je veux qu'on, ou on arrête ou on fait une traversée plus courte. Et là je craque, mais je fonds en larmes et j'explique pourquoi. J'ai peur de mourir vu les nuits qu'on vient de passer, j'ai peur de plus jamais revoir mes proches qui me manquaient terriblement. Et à ce moment-là, on se réunit tous les trois, on parle. Mathieu fond en larmes aussi, il me raconte des anecdotes, ce qui me remotive. Et on nage, et TF1 arrive, et là ça me refait chialer parce que je revois Anne rapidement, je vois le journaliste aussi que je connaissais un petit peu, et là je me dis ok, enfin les gens croient en nous et il faut aller au bout, quoi.
Ouais, parce qu'à ce moment-là, en fait, vous apprenez que l'histoire est en train de vous dépasser complètement. Dans les journaux locaux, on parle de vous. Évidemment, en France, c'est relayé, notamment dans les journaux télévisés. Les réseaux sociaux aussi sont très enthousiastes et vous réalisez que vous êtes suivi. Ça vous a aidé à ce moment-là ?
Exactement. En fait, Jean-Marie Bagayoko, un journaliste qui est maintenant devenu mon ami, parce que c'est lui qui avait fait mon tout premier reportage, arrive du coup en bateau. Vous vous rendez compte, ils ont mis 3 heures à nous retrouver.
Ouais, hein, ouais,
c'était
ouais.
La même manière en fait que s'il nous arrivait un pépin, c'est-à-dire qu'ils allaient utiliser notre balise GPS pour nous retrouver. Donc les secours auraient pu mettre 3 heures à nous retrouver. Ça aussi, c'était pas super rassurant. Et Jean-Marie me pose juste cette question, comment ça va Théo ? Et juste après, ils nous disent justement, la France entière vous suit, même le monde entier vous suit. Et là, ça me fait prendre conscience de ce qui nous attend aussi à notre arrivée et aussi qu'il faut pas lâcher parce qu'on peut pas décevoir ces millions de personnes.
Maliam était là, vous vous souvenez de ce moment où tout aurait pu basculer ? J'ai presque l'impression que le regard s'embue un peu. Pourtant, vous êtes arrivée toute pleine d'énergie et on sent que l'émotion est encore forte.
Ouais,
ça a été un tournant décisif de cette aventure, ce moment.
Ouais, parce qu'en fait... On se rend compte avec Mathieu au moment que Théo sort, 40 minutes, il dit « j'en peux plus, je sors ». Il veut arrêter. Et j'ai dit « c'est pas possible qu'on arrête, on peut pas arrêter ». Et Théo nous raconte « non, je peux pas arriver et qu'il n'y a pas ma famille, je suis à bout mentalement ». En fait, il y a quelque chose qu'il a besoin qu'on pouvait pas lui apporter. Et en fait, on essaye de... On lui dit, on est à trois, Théo. On est à trois. T'es pas tout seul. On est encore là. On peut prendre le relais. Tu peux te reposer. Il y a pas de souci. On peut encore aller jusqu'au bout. Ouais. Et il se reprend. Juste par rapport à ce que lui dit Théo. Mathieu lui dit, écris à tes parents. Écris à ta sœur. Écris à tes parents. T'as besoin de vider tout ce que t'as sur le cœur. Écris-leur. Et il a dit, ok, je leur écris, mais je leur envoie pas tout de suite. Et en fait, ça l'a soulagé de pouvoir leur écrire comme s'ils étaient là. Mmh. Et ça a passé. Il a dit, c'est bon, je suis prêt. On peut repartir nager. Et on continue.
Vous aviez fait 68 km en 8 jours. Ouais. Vous n'aviez plus que 2 jours pour faire encore 40 km. À ce moment-là, vous y croyez encore, Mathieu Witvoet?
Moi, j'y crois tout le temps. Et je me suis juste dit, c'est qu'une question de temps. Mmh. Et moi, le temps, je l'aime bien. Et j'aime bien quand il s'allonge. Et je pense que c'est aussi une des différences entre l'aventurier et l'athlète, c'est que Théo et Malia, vous avez passé votre vie à chasser des secondes. Mmh. L'aventurier, il les prend, ces secondes. Et Théo, pour pas aider, était en plein dans un livre qui s'appelle Marche ou crève. Je l'ai pas lu, mais je crois que l'histoire, c'est que dès qu'il s'arrête, il crève, quoi. C'est
ouais,
ça,
c'est
non?
Ça.
C'est pour ça qu'il fallait emporter.
Ça n'a pas aidé.
Malade, j'ai pris le pire livre.
Donc voilà, dans ce contexte-là, dès qu'il s'arrêtait pour lui, c'était l'enfer. Dès qu'on s'arrêtait pour moi, c'était super, je peux lire, je peux aller me baigner tranquille, on peut faire à manger, on peut faire un petit feu. Ouais. Donc on avait vécu aussi les premiers jours, ces 8 premiers jours, très différemment.
Ouais, c'est ça. C'est là où on voit toute la différence entre la mentalité de l'aventurier que vous êtes, Mathieu Witvoet, et vous, qui avez été des compétiteurs, où vous avez été très performants sur des temps très courts, où vous avez été les meilleurs mondiaux sur des périodes très courtes.
Ouais. En fait, nous, on se battait pour être les premiers. Et là, il fallait que je bascule dans ma tête pendant l'aventure, me dire, mais prends ton temps, vas-y, tant que tu avance. Quand tu as un moment de récup, récupère, profite du déjeuner, profite des moments avec les garçons. Et en fait, c'était ça qu'il fallait faire, en fait.
Allez, encore quelques kilomètres à parcourir dans les eaux froides du lac Titicaca avec Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Witvoet. J'aperçois l'arrivée et les côtes péruviennes.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
C'était Santé, chanté par Stromae.
Allez, ton dernier relais, Théo!
Et voilà en direct de l'arrivée, les nageurs sont là, c'est fini, on y est. Yes, ils lâchent tous les trois. énorme.
Franchement, je croyais pas que j'allais mettre ma vie en jeu aussi. Mais on est là, les gens sont là, on l'a fait. Et franchement, merci à tous parce que c'est ça, réaliser ses rêves, quoi. Et sans les deux là, j'aurais pas réussi. Donc merci à vous. Putain, on l'a fait, quoi.
On a toute une équipe avec nous et on leur dit merci parce que sans eux, on serait pas là. Tous les trois, on est les premiers et on est fiers. C'était une sacrée aventure.
Viva el Perú!
Viva!
Viva Francia!
Viva!
Viva los suros!
Nous étions le samedi 20 novembre 2021 et nos trois invités, Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Witvoet, remportaient enfin leur pari, traverser le lac Titicaca à la nage, dans la longueur, 108 km parcourus. Là, c'est la délivrance, hein, Théo Curin, on l'entend.
Ah ouais. Mais je pleurais pas vraiment. Je suis un homme. Hein.
C'est vrai qu'on raconte beaucoup de fois où vous avez pleuré dans cette émission.
Non, je pleurais pas. C'est vrai que c'était la délivrance et je suis soulagé. Je suis tellement soulagé à ce moment-là parce que je revois voilà mon coach, mes coachs et tout cet amour en fait des Péruviens qui nous attendaient. Il y avait même des Français qui étaient là en vacances et qui avaient fait plus de 12 heures de transport pour venir assister à l'arrivée. Et c'est ça en fait qui m'avait manqué, c'était l'amour des autres et j'avais qu'une envie en fait, c'était de les enlacer et je voulais plus en fait m'endormir, je voulais même plus rentrer à l'hôtel, ouais. Je voulais juste profiter des gens.
Ouais. Faut dire que jusqu'au bout vous avez souffert parce que la journée cette dernière journée avant d'arriver, ça a pas été aussi calme que prévu. Après 3 km de nage, vous vous êtes rendu compte en regardant le GPS que vous n'aviez pas pris le bon cap jusqu'au bout.
Ah, jusqu'au bout, ça nous a fatigué. Je nage. Et puis, à chaque fois, je demande un peu. Alors, en fait, les personnes qui sont sur le radeau donnent un peu les consignes de repères.
Le
et
GPS, puis... c'était vous, Malia, qui était chargée du GPS. C'est vous qui aviez, vous étiez
un peu
planté sur la
trace. Il donnait vraiment sur la droite.
Ouais.
Et en fait, je me suis trompée de ville en pensant que Puno était plus à droite.
Mais incroyable.
Et Mathieu me dit, non, Puno, c'est ça. Ouais. Et nous, on doit aller vers Puno. Et à ce moment-là, le vent se lève et on le prend de côté et on n'avance plus.
Donc là, c'est la fin. C'est-à-dire que et vous avez pendant 6 heures
nagé,
vous saviez qu'on vous attendait.
Ouais.
Oh ouais.
Et jusqu'au bout, vous avez eu du mal, Mathieu.
Peut-être pour redire aussi, c'est que la veille, on a fait la plus grosse journée qu'on a jamais faite.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on s'est levé à 2h du matin et dans la nuit, on a commencé à nager sous les étoiles et on a fait 25 kilomètres. Ce qui est juste... pour nous, c'était un effort... énorme. Et du coup, sur cette dernière journée, on commence déjà bien entamé.
Ouais, donc on comprend, hein, ce sont des larmes de joie, mais aussi de fatigue à l'arrivée, hein, Malia.
Ah ouais, complètement. Et en plus, avant de prendre le canal, j'ai dit au garçon, je veux rentrer chez moi, j'en peux plus.
Ah oui, là vous vouliez abandonner.
Ah ouais, non, mais j'ai dit, non, mais j'en ai marre, c'est bon quoi. Mais faut qu'on rentre, je rentre chez moi, alors que j'étais prête à faire une semaine encore. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai dit non, je veux rentrer chez moi.
Au final, ça a été plus intense de remporter ce défi, de gagner ce pari, que de gagner une médaille olympique. Vous iriez jusqu'à dire ça, Malia?
Ouais, en fait, le travail en équipe a fait presque, ouais, j'ai vécu les mêmes sensations à l'arrivée que pendant ma finale olympique à Athènes, et c'était très très fort. Ouais. Le vivre avec les garçons, ça a été presque aussi fort que quand j'ai touché le mur, parce que j'avais eu aussi une colère, une envie d'aller chercher une médaille, mais là, ça a été tellement fort. Pendant 11 jours, on a vécu tellement de choses et d'émotions, ascenseurs émotionnels. Ça a été très très fort.
Et pendant ces 11 jours de traversée, les Péruviens se sont passionnés pour cette traversée. Théo Curin, vous n'étiez pas encore arrivé que déjà votre nom était sur toutes les lèvres.
Théo Curin.
Théo Curin.
Théo Curin, tout le Pérou est avec toi. C'est un exemple de courage, de valeur et de force. Il nous prouve que nous, les personnes valides, on peut absolument tout faire.
Sans ses deux bras et sans ses jambes, ce qu'il est en train de réaliser, c'est juste incroyable.
J'ai beaucoup d'admiration pour lui.
Il nous prouve à tous qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. C'est possible.
Vous vous attendiez à un tel engouement des locaux, Théo ?
Non, pas du tout. Ça fait même bizarre, en fait, d'entendre ça, d'entendre ce petit accent. Non, ça fait trop plaisir. Et ce qui me touche le plus, c'est que, oui, moi, c'est un message que j'avais envie de faire passer aussi à travers cette expédition et aussi à travers tout ce que je fais aujourd'hui. C'est de prouver aux gens qu'il peut nous arriver n'importe quoi et qu'on peut quand même s'accorder le droit de rêver. Et qu'en plus, ce message passe à l'étranger, à l'autre bout du monde, bah, c'est une grande fierté. Ouais.
Vous n'en finissez pas de repousser vos limites, de tenter de nouvelles aventures, hein. En plus de vos exploits sportifs, hein, je veux dire, Théo Curin, vous vous êtes essayé à la carrière d'acteur récemment avec une participation au feuilleton Plus belle la vie, c'est même plus qu'une participation, je crois que vous avez au moins signé pour 30 épisodes dans cette série. Ça. Vous êtes aussi mannequin pour une marque de cosmétiques.
En fait, ce qui m'excite, c'est d'aller dans les endroits où on m'attend le moins, où on n'a pas l'habitude de voir un mec qui n'a pas de bras, pas de jambes, avec des cicatrices partout. Et bah, par exemple, le mannequinat, il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais dit que ça allait être possible. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Et ça prouve que le regard des gens est en train de changer. On est tout le temps en train de dire, oh là là, on est à la bourre par rapport à d'autres pays sur la différence, sur le handicap. Oui, certes, c'est vrai. Mais par contre, on est en train de progresser. C'est important de le dire.
Mayam était là et Mathieu Wittwoud. Est-ce que votre regard aussi à vous a changé suite à cette aventure que vous avez vécue au plus près avec Théo Curin sur le handicap, honnêtement?
Moi ça n'avait pas changé parce que j'ai eu mon père qui est devenu une personne en situation de handicap alors que j'avais 10 ans. Donc je connaissais un peu ce milieu personne en situation de handicap. Ouais.
Mathieu?
Complètement. Théo, tout ce qu'il est capable de faire malgré ses handicaps entre guillemets, c'est hallucinant. Et moi, j'ai été ébloui tout au long de ces 15 mois par des petits gestes aussi faciles que allumer un réchaud, quoi. Ouais. Pour moi, c'est facile avec des mains, 10 doigts. Théo, en fait, il fait ça aujourd'hui avec une facilité qui est juste bluffante. Ouais.
Et puis, on l'entend un peu à l'antenne, mais hors antenne, c'est encore plus flagrant. Vous êtes trois potes, vous êtes rentrés dans le studio, c'était impossible d'en placer une. Il y a une complicité incroyable entre vous. Vous m'avez dit, oui, on s'est pas vu depuis longtemps, on a plein de choses à se raconter. Ça, c'est quelque chose qui va vous lier pour le restant de vos jours, j'ai l'impression, Théo.
C'est certain, en fait, quand on vit des choses aussi fortes, je pense que on est obligé de d'avoir cette intimité entre nous. On a dormi pendant 11 jours les uns sur les autres.
Sur les autres, oui, on peut vraiment le dire.
C'est
vous
vrai,
étiez à touche-touche.
C'est le terme. Mais non, mais en fait, j'étais tellement fier de pouvoir participer à cette aventure avec ces deux camarades-là. Je pense que si c'était deux autres personnes, ça aurait été complètement une autre aventure et ça aurait été pourri. Parce que cette aventure, c'était la nôtre. Ça a été écrit comme ça et j'étais très très fier d'avoir deux camarades avec toutes ces connaissances-là et leur passé d'aventurier ou de championne. Ouais.
Merci à tous les trois, Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Wittwoud d'être venus partager votre aventure avec nous. Nous allons mettre quelques photos de votre traversée du lac Titicaca sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac et puis aussi sur notre page Instagram puisque enfin le Temps d'un Bivouac à sa page Instagram. Ah, il était temps qu'on s'y mette.
Il était temps.
Un grand merci à tous les trois d'être passés par notre bivouac. Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast avec l'appli Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.